Bonjour à tous et merci d'être à l'écoute de Calade. Au sommaire de notre édition, agir est une nécessité pour les 6 prévenus, militants et membres du groupe local Villefranche-Beaujolais-Saône ANV COP21 qui comparaîtront pour la deuxième fois le 29 octobre au tribunal de Lyon. Puis Alain Bouilly, président des Beaujolais Runners, fondateur du marathon du Beaujolais, nous invite à chausser nos baskets encore une fois pour le top départ 2019 du marathon. Et en conclusion, un clin d'œil aux lauréats du festival Terre de Seine qui se déroulait ce week-end sur la scène du théâtre de Villefranche, à l'initiative de l'Office culturel de Villefranche. Le premier prix remis par la ville et prix du public s'est vu attribué à la troupe de théâtre en soi, avec nous, sa metteur en scène. Calade, le journal. Abou Bakr al-Baghdadi, mystérieux chef de l'organisation État islamiste et éphémère, calife Ibrahim. La vie de cet Irakien, né dans une famille pauvre en 1971 et dont Washington a annoncé la mort lors d'un raid américain en Syrie, samedi reste un mystère. Article du journal Le Monde de Rémi Ourdan et Majid Zerouki. Au sixième jour du mois du Ramadan, 1435, dans le calendrier de l'Hégire et premier vendredi du mois sacré, à la mosquée Al-Nouri de Mossoul, aujourd'hui détruite, Abou Bakr al-Baghdadi apparaît tout de noir vêtu, la tête sainte d'un turban noir. L'imam, qui officie habituellement le vendredi, a été évincé. Il sera d'ailleurs assassiné plus tard, après avoir refusé de prêter allégeance au calife Ibrahim. Le règne de Baghdadi, chef de l'organisation État islamiste, EI, s'annonce alors sous le signe de la soumission ou de la mort. Il s'est terminé, selon Washington, dans la nuit de samedi 26 à dimanche 27 octobre, lors d'un raid des forces spéciales américaines en Syrie. Le prêche fondateur, prononcé le 4 juillet 2014, se veut une déclaration d'autorité. « Je suis le Wali, gouverneur, désigné pour vous diriger, mais je ne suis pas meilleur que vous », affirme l'orateur. « Si vous pensez que j'ai raison, aidez-moi. Et si vous pensez que j'ai tort, conseillez-moi et mettez-moi sur le droit chemin. Obéissez-moi tant que vous obéissez à Dieu. » La scène filmée par 3 caméras laisse entrevoir une atmosphère beaucoup moins sereine que ce que l'organisation djihadiste cherche à présenter. Pistolets en évidence, des gardes sont postés aux colonnes de la salle de prière et des kalachnikovs sont posés contre un mur à quelques mètres du calife. La démarche même de Baghdadi intrigue. Son pas lent, un bras immobile et la main posée sous sa poitrine semblent indiquer qu'il porte une arme. Au cœur même de son califat, dans la mosquée Al-Nouri, il ne semble pas se sentir en sécurité. Des fidèles présents ce jour-là raconteront que leurs téléphones ont été confisqués et que les réseaux de télécommunications ont été coupés dans le quartier. Agir est une nécessité pour les 6 prévenus militants et membres du groupe local Villefranche-Beaujolais-Saône ANV COP21 qui comparaîtront donc pour la deuxième fois le 29 octobre au tribunal de Lyon, poursuivi en appel par l'État dans l'une de ses 20 affaires de la campagne hashtag décrochons Macron. Avec nous, Nicolas Guérini et Hélène Lacroix-Baudrillon.
On sent aujourd'hui, vous allez peut-être me le confirmer également, que ce type de réaction un peu citoyenne, on peut penser aux gilets jaunes, sans étiquette, plutôt dans la mouvance non-violence, même dans nos voisins, au-delà des frontières, on sent cette chose qui est palpable aujourd'hui peut-être. Oui.
Oui, et peut-être que derrière, il y a une volonté un peu de se réapproprier la vie politique. Peut-être qu'il y a quelque chose comme ça pour les citoyens, parce qu'on voit bien un peu les limites de la lenteur actuelle de notre mode de fonctionnement, du Parlement, enfin des députés, etc.
Du discrédit, j'allais dire presque, de la fonction politique. On vote pour des inconnus, finalement, aujourd'hui.
Oui, on vote pour des inconnus. Alors, à la fois, on vote pour des inconnus, mais on vote... Tous les sondages ou les études là-dessus montrent qu'on vote souvent pour des personnes, quand même, à qui on donne sa confiance à un moment donné. Et le fait est, pour répondre à votre question, oui, je pense que les gens commencent à en avoir ras-le-bol et que les systèmes et les mécaniques de propagande qui sont habituellement utilisés par les gouvernements ont plus de mal à prendre aujourd'hui parce que les gens, partout dans le monde, sont informés aujourd'hui aujourd'hui sont de plus en plus informés, et même dans les pays où Internet est relativement verrouillé, il y a quand même tout un tas de façons pour obtenir de l'information un peu partout, via les réseaux sociaux, via Internet. Et aujourd'hui, c'est plus compliqué pour des gouvernements de raconter des histoires à ces populations.
Avec des mouvements forts de mobilisation, d'ailleurs, dans les rues.
Oui, avec beaucoup de gens dans les rues. Donc, à la fois, ça donne beaucoup d'espoir, parce qu'on se dit, les peuples, en tout cas pour moi, dans ces mobilisations, affichent vraiment une volonté de faire changer ce système, de faire évoluer le système, parce que l'injustice sociale est trop criante, trop forte, et devenue complètement insupportable partout dans le monde. L'injustice climatique pour laquelle nous on se bat également, tout ça étant étroitement lié. Donc oui, c'est plutôt, moi je trouve ça plutôt encourageant de voir tout ça. Et après, avec beaucoup d'inquiétude, parce qu'on sait qu'il y a des gouvernements qui sont plus répressifs que d'autres et qui n'hésitent pas à utiliser des armes réelles pour tirer sur les manifestants. Donc malheureusement, il y a les conséquences négatives qui vont aussi avec ça.
Revenons effectivement donc au 29 octobre. Deuxième rendez-vous avec le tribunal. On explique un petit peu peut-être ce qui va s'y passer.
Sur le côté justice, en fait, on refait un procès. Donc le procureur a fait appel de la décision du juge pour le premier procès du 28 mai. Et donc, a priori, donc, il estime que les amendes qu'on a prises ce jour-là, de 500 euros avec sursis et de 250 fermes pour l'un d'entre nous, ne sont pas suffisantes, et donc on recommence tout un procès.
Nous ne sommes plus des condamnés, nous sommes redevenus des prévenus. Nous avons été condamnés pendant 10 jours, pendant le temps de l'appel, et puis une fois qu'on a su que le procureur faisait appel, on est redevenus des simples prévenus, les peines disparaissant en même temps que l'appel. Donc on repart à zéro devant une cour d'appel, donc avec des magistrats différents, qui sont a priori plus expérimentés, qui travaillent plus sur le fond des dossiers probablement. Donc, mais en tout cas, de notre côté, on le prépare de la même façon, avec une mobilisation citoyenne peut-être un petit peu moins forte qu'au début.
Vous appelez à des témoins, effectivement, trois témoins.
Oui, alors on aura Marie Toussaint, cofondatrice de notre affaire à tous, qui a lancé la pétition « L'affaire du siècle ». On a Christophe Cassou, qui est un professeur au CNRS et qui a participé à la rédaction du GIEC. Et Freddy Maignan, lui, c'est un témoignage président de Mountain Wildness France. Et en fait, il sera là, lui, plus pour témoigner de l'impact du réchauffement climatique en Rhône-Alpes et de ce qu'il voit, lui, tous les jours dans les montagnes, de ce qui est vraiment visible dans son quotidien.
Comment on peut résumer votre plaidoirie ?
Alors nous, notre ligne de défense, on vient justifier notre action de décrochage et notre action de désobéissance civile par un état, ce qu'on appelle juridiquement un état de nécessité. L'état de nécessité, pour faire simple, c'est la maman qui vole à manger dans un magasin pour nourrir son enfant parce qu'elle n'a pas d'argent. Voilà, ça a été reconnu, ça a été plusieurs fois dans l'histoire juridique française, on retrouve des décisions comme ça. Concernant le climat, c'était une grande première à Lyon de reconnaître cet état de nécessité, c'est ce qui avait été plaidé, et nous c'est ce qu'on continue de plaider à chacun des procès. C'est-à-dire aujourd'hui l'urgence climatique est telle qu'il est nécessaire de passer à des modes d'action qui permettent d'interpeller nos gouvernants pour qu'ils prennent des décisions vite. Et c'est la nature de l'urgence qui vient justifier cet état de nécessité. Donc ça a été reconnu à Lyon. Nous, à Bourg-en-Bresse, ça avait été refusé par le juge en disant on ne voit pas forcément le lien entre vous décrocher un portrait et la lutte contre le dérèglement climatique. Mais pour autant, le juge lyonnais lui a eu une autre appréciation en disant après avoir épuisé tous les moyens normaux d'expression, c'en est un autre. Donc oui, l'urgence climatique, elle est réelle, on ne la remet pas en cause. Donc oui, il est nécessaire de faire des choses. Est-ce que c'est ça? On n'en est pas certain. Mais en tout cas, on vient légitimer des actions de ce type parce que l'urgence est là.
Un appel de soutien pour les 6 membres militants et membres du groupe local Villefranche-Beaujolais-Saône à NVCOP 21 le 19 octobre prochain, poursuivi en appel par l'État au tribunal de Lyon. Le rendez-vous à 11h au parvis du tribunal de la Cour d'appel. De nombreuses prises de parole et d'échanges. Alain Bouy est président des Beaujolais Runners et l'un des fondateurs du marathon du Beaujolais qui nous invite de nouveau à chausser nos baskets pour le top départ 2019 du marathon du Beaujolais.
Comment ça se passe au fait au marathon, puisqu'il y avait eu un changement partenaire.
On est effectivement bonne mémoire. Nous sommes en partenariat avec la société Extrasport à Lyon, qui organise pas mal d'événements sportifs d'envergure et qui est très connue puisque c'est eux qui organisent la Saint-Élion depuis maintenant 20 ans. Donc ce sont de vrais professionnels qui savent vraiment de quoi ils parlent qui nous apporte beaucoup en compétences et en maîtrise de l'événement. Nous sommes bien sûr toujours aux manettes, nous sommes bien sûr toujours propriétaires de notre événement. Ils interviennent en tant que prestataires sur la globalité et sur la coordination de l'événement, puisque la raison qui avait guidé à leur arrivée chez nous, c'était bien évidemment que la manifestation devenait très lourde, se complexifier, et qu'il fallait effectivement trouver des relais, et puis n'ayons pas peur des mots, les troupes prenant un petit peu d'âge, il fallait commencer à réfléchir à une évolution et à une structuration différente.
Alors le marathon international du Beaujolais, bien évidemment, et comme son vin, il tente à s'exporter au-delà de nos frontières, et très loin même, hein, par des partenariats.
Oui, alors effectivement, on avait pour habitude de faire venir les délégations étrangères chez nous en Beaujolais, l'année dernière, je crois, 70 pays des 5 continents. Et puis on a passé un accord avec des amis israéliens qui sont venus nous voir l'année dernière et qui nous ont fait part de leur intention de monter en Israël un marathon du Beaujolais. Alors l'idée pouvait paraître saugrenue et surprenante, mais en fait pas du tout. Cette première édition a eu lieu au mois d'octobre entre Jérusalem et Tel Aviv et ça a été un grand succès puisque nous avons eu plus de 4000 participants pour cette première édition. L'opération a été montée en 6 mois et moi je dois tirer un grand coup de chapeau à nos amis israéliens qui ont su faire quelque chose, je n'ai pas honte de le dire, peut-être même mieux que chez nous. Mais bon, ça nous donne l'envie de les rattraper maintenant.
Très bien. Et puis, effectivement, vous emportez le Beaujolais, ne serait-ce que le label, mais aussi certainement des producteurs qui vous accompagnent.
Oui, on a eu la chance d'avoir le soutien de deux structures, celle de l'Inter-Beaujolais et puis d'une société privée, je vais la nommer, les Vins des Combes à Saint-Étienne-les-Ouillères, puisque c'est d'une initiative personnelle de leur part. Ils nous ont sollicité en nous disant, écoutez, on a vu que vous alliez exporter le marathon du Beaujolais en Israël. On aimerait être votre partenaire. Comment peut-on vous aider ? C'est suffisamment rare pour pouvoir le souligner. Donc merci à la Maison des Combes.
Voilà. Revenons maintenant à notre énième édition du marathon international du Beaujolais, avec toujours son succès, bien évidemment, c'est pas démenti hein, pour les coureurs, en tous les cas.
Pour les coureurs, alors en quantité, oui, maintenant il va falloir servir la qualité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est satisfait. À un mois de la manifestation, on a déjà 15 000 inscrits. On a donc, par rapport à l'objectif qu'on s'est fixé, 3 000 coureurs à aller chercher en un mois. Ça doit être possible, donc on sera dans l'objectif de 18 000, c'est-à-dire que ce sera bien sûr la plus grande édition du marathon du Beaujolais. On est content également parce que l'épreuve phare, à savoir le marathon, ne démord pas, n'en démentit pas. On a 2200 inscrits déjà, donc c'est bien, on va être dans nos chiffres.
Au programme du 23 novembre prochain pour le marathon du Beaujolais, un départ sur la commune de Fleury à 9h, sans oublier l'événement Family Marathon à 10h. Puis le départ à midi, avenue Saint-Exupéry, du semi-marathon, avec l'arrivée des coureurs dès midi et demi. Le départ, toujours avenue Saint-Exupéry, pour le 13 km du Rhône à 14h30, la remise des prix à 15h30, au parvis de l'hôtel de ville, sans oublier la soirée, Parc Expo, la nuit du marathon. Et pour conclure cette édition, un clin d'œil aux lauréats du festival Terre de Seine qui se déroulait ce week-end sur la scène du théâtre de Villefranche. À l'initiative de l'Office culturel de Villefranche, le premier prix remis par la ville et prix du public s'est vu attribué à la troupe de théâtre En Soie, compagnie en résidence au Castelcom à Anse, pour sa pièce « Dis à ma fille que je pars en voyage » de la dramaturge Denise Chalem. Nous avions rencontré alors Brigitte Munil, metteur en scène.
Et c'est peut-être aussi une reconnaissance justement du théâtre amateur et de jouer dans ce théâtre prestigieux. On a vu des professionnels, on a vu des troupes de professionnels et nous en tant qu'amateurs, voilà, c'est une récompense du travail effectivement fourni tout au long de l'année.
Deux mots alors maintenant pour terminer sur vos spectacles respectifs.
Donc moi c'est une pièce qui a été écrite par Denise Chalem en 2003-2005 qui s'appelle « Dis à ma fille que je pars en voyage ». C'est la rencontre de deux femmes qui ne se seraient pas rencontrées par ailleurs, dans un univers carcéral, un univers où il y a de la violence, mais il y a aussi de la tendresse et de l'amour. Donc c'est une rencontre de femmes complètement différentes. Dominique qui a des allures très rudes, qui vient effectivement d'un milieu très modeste. Et la deuxième personne qui arrive, qui est plutôt une bourgeoise, bonne éducation, etc. C'est la rencontre de ces deux femmes qui vont s'affronter, qui vont se détester et qui vont apprendre à se connaître pour finir avec une belle histoire d'amour. Des délits complètement différents, une qui a commis un meurtre et l'autre une escroquerie. C'est une pièce pleine de tendresse, d'humanisme, et on y pleure, on y rit, même si c'est un milieu carcéral.
Chaque année, le Festival Terre de Seine, une mise à l'honneur du théâtre amateur à l'initiative de l'Office culturel de Villefranche. Fin de notre édition. N'oubliez pas toutes les informations locales et régionales en continu sur Calade, notre page Facebook. Très bonne continuation sur Calade.